Pourquoi on parle, j'ai parlé d'exception culturelle 2.0, parce que, vous le savez tous, on est dans un monde où tout est, où les choses sont en train de basculer, de changer, puisque les systèmes nationaux audiovisuels ou cinématographiques étaient très contrôlés, très verrouillés, très territorialisés, sont en train de se modifier sous du fait des changements technologiques, de l'arrivée d'Internet et de grandes entreprises, en particulier des géants d'Internet américains, qui peuvent délivrer des services électroniques, des services culturels, de n'importe quel pays, en tout cas de n'importe quel pays d'Europe. Alors ça pose des problèmes fiscaux, et je recommande à tous ceux qui sont intéressés par ces questions de l'Internet, de la fiscalité et des évolutions aussi sur la problématique culturelle, de lire le rapport des Collins au carré. Hein, Collins au carré, c'est parce qu'il y a deux Collins, Nicolas Collin et deuxième Collin, l'un est inspecteur des finances et l'autre est conseiller d'État, et c'est un spécialiste des finances et des impôts, et ils ont écrit un rapport sur la manière dont on peut attraper fiscalement les grandes entreprises d'Internet. Et ils inventent une nouvelle fiscalité, c'est assez intéressant parce que c'est des réflexions sur la fiscalité, une fiscalité sur les données personnelles. Vous savez que la France est championne en matière d'invention d'impôts. C'est nous qui avons inventé la TVA, qui est quand même l'impôt moderne par excellence. Et donc, l'exception culturelle. Alors, pour parler de l'exception culturelle 2.0, si j'ai bien compris, j'ai une heure et demie pour faire ça. Bon, même plus une heure et demie maintenant. Il faut partir de ce qu'est l'exception culturelle de départ, enfin, celle de 93. L'exception culturelle, c'est un concept qui a été forgé dans les années 90, au moment où le cycle de libéralisation commerciale en matière de services, qu'on a appelé l'Uruguayrand, parce qu'il avait été lancé en 1986 à Montevideo, capitale de l'Uruguay, ce cycle de négociations qui avait pour objectif de libéraliser les échanges internationaux en matière de services a commencé à s'intéresser aux questions des services culturels. Et les services culturels, c'était d'abord les services audiovisuels. Et s'y intéresser sous la pression des Américains. Vous savez que les Américains ont une industrie audiovisuelle, de divertissement, de musique extrêmement puissante. C'est leur première ou deuxième recette d'exportation, tout compris, y compris les programmes naturellement de télévision. Et c'est une industrie qui est fortement soutenue par le gouvernement américain, parce que les États-Unis ont toujours considéré qu'en favorisant la diffusion de leur création, on favorisait la diffusion de leur modèle politique. Et donc les films américains, la fiction américaine, c'était le vecteur de la politique, mais aussi des marchandises. En gros, derrière les films, il y a les jeans, il y a le Coca-Cola, enfin, il y a les marques. Et donc, lorsque le cycle de négociation de l'Uruguayrand a été lancé, ça a été fait dans l'indifférence générale des milieux culturels. Les milieux culturels se sont absolument pas aperçus qu'ils pouvaient être concernés par cette négociation, parce que, en réalité, comme il n'y avait jamais eu de négociation commerciale internationale sur des sujets concernant la culture, personne ne connaissait même qui négociait, comment ça se négociait, qu'est-ce qui pouvait vous arriver. Et c'est à partir des années, à peu près l'année 90, quand les Américains ont commencé une offensive, que les milieux culturels, en particulier les milieux culturels français, se sont intéressés à ce sujet. Alors pourquoi les Américains ont lancé une offensive? Parce que ils étaient très maris que l'Europe ait adopté une directive européenne qui s'appelle Télévision sans frontières, qui réglemente la diffusion des programmes européens sur l'ensemble de l'Europe, et qui prévoyait que une disposition qui a l'air juridiquement faible, mais qui est quand même permettait de faire des législations nationales, qui prévoyait que chaque fois que c'était réalisable, il fallait diffuser 50% de programmes européens. Et donc c'était clairement le principe de la création de quotas de diffusion en faveur des œuvres européennes qui étaient encouragés par Bruxelles. La nature de ces quotas étant naturellement laissée à l'appréciation des États membres, chaque État pouvant, pour les diffuseurs qui le concernent, pas pour les diffuseurs d'un autre pays, mais pour les diffuseurs de ce pays, prendre des mesures plus contraignantes. C'est-à-dire qu'en France, le quota européen, il n'est pas de 50%, il est de 60%, et il y a un quota de 40% d'œuvres d'expression originale française qui doivent être diffusées sur les chaînes de télévision. Et donc, les Américains ont considéré que les Européens voulaient construire une sorte de forteresse réglementaire pour empêcher l'invasion de leurs programmes de télévision et de leurs films de cinéma sur les chaînes. Et donc, ils ont pensé que par les négociations du GATS, donc de la libéralisation des services, ils pourraient remettre en cause ce système. Alors, il faut savoir que les négociations du GATT, qui ont abouti à la fin à la création de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, les négociations s'est terminées à la fin de l'année 93, ces négociations concernaient tous les secteurs des services. Et que dans ce type de négociation commerciale, vous ne négociez pas service par service, mais vous pouvez échanger un service contre un autre service. C'est-à-dire que la négociation qui se fait par consensus se termine quand l'ensemble des pays concernés estiment qu'il y a un équilibre entre leurs intérêts offensifs, c'est-à-dire là où ils vont faire sauter un certain nombre de barrières qui gênent et qui entravent leur commerce, et leurs intérêts défensifs. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque, en 93, on n'était pas du tout comme maintenant. On était dans un monde où c'était les grands pays, les riches, l'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Australie, qui dictaient leurs lois aux pauvres. Et une fois que les riches s'étaient mis d'accord, bien évidemment, sur la libéralisation, ils se retournaient vers les pays pauvres pour les faire payer et les faire contribuer, parce qu'il y avait une puissance qui empêchait les pays moins fortunés de résister. Depuis, ça a changé, puisque entre les riches et les pauvres sont toujours aussi pauvres, c'est les pays africains, les riches sont toujours riches, non ? Mais sont arrivées des puissances émergentes nouvelles comme la Chine, le Brésil, l'Inde, enfin des pays qui ont une véritable puissance commerciale. Et la négociation, au lieu d'être un peu bipolaire, en gros concentrée sur un débat Europe-États-Unis, est maintenant multipolaire. Et ça fait que depuis que l'OMC s'est créée, donc en 1993, il n'y a eu aucun accord analogue à celui du GATS, au sein de l'OMC. Toutes les négociations échouées, Cancun a échoué, le cycle de Doha a échoué, il n'y a jamais eu d'accord, ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, les pays se lancent dans des négociations bilatérales. On n'est plus dans des négociations multilatérales. Et donc, à l'époque, lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait une offensive américaine, on a essayé de forger un concept qui était celui de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est une marque, c'est un nom de code. C'est pas un concept juridique dans les négociations internationales, parce que dans l'accord du GATS, tel qu'il a été signé, on a dit l'exception culturelle a gagné. Vous verrez nulle part l'exception culturelle. La culture est incluse dans la négociation et les services culturels font partie de l'accord. Simplement, l'Europe n'a pris aucun engagement de libéralisation au titre de ses secteurs, principaux secteurs culturels et de ses secteurs audiovisuels. Ne prenant aucun engagement de libéralisation, ça veut dire qu'elle n'était pas tenue de modifier sa réglementation, qu'elle n'était pas tenue progressivement de la libéraliser, mais qu'en contrepartie, sa réglementation était protégée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire l'objet de mesures de rétorsion unilatérale, car on a beaucoup critiqué les accords du GATT ou ce type d'accords commerciaux. Mais lorsqu'il n'y a pas d'accord commercial, eh bien, les plus puissants peuvent prendre des mesures de rétorsion. C'est-à-dire, par exemple, si les Américains, avant le GATT, n'étaient pas contents et voulaient mener une guerre économique à l'Europe parce que les quotas de télévision ne plaisaient pas, ils pouvaient taxer le fromage ou le champagne. Bon, alors, le champagne, s'ils veulent s'attaquer spécialement à la France. S'ils veulent s'attaquer à l'Allemagne, les automobiles. Bon, voilà. Donc, les accords de commerciaux introduisent, on peut dire, du droit de la civilisation dans un univers qui avant n'était géré que par les rapports de force. Il y a eu une période, par exemple, où l'automobile japonaise a envahi les États-Unis et les Américains ont rétorqué par des barrières douanières extrêmement puissantes parce que, comme il n'y avait pas de réglementation, c'était la loi les plus forts. Donc l'intérêt de l'accord de libre-échange, c'est qu'il permettait à l'Europe, dès lors qu'elle ne prenait pas d'engagement de libéralisation, de sécuriser ses mesures de protection. C'est pour ça que tous ceux qui critiquaient le principe de ces accords n'avaient pas totalement raison. Parce que s'il n'y avait pas eu ces accords, les Américains auraient pu les mettre en cause par des rétorsions unilatérales. Alors que dès lors que les accords sont signés et que l'Europe ne s'est pas engagé à libéraliser ses services culturels ou audiovisuels, bien évidemment, nous pouvions maintenir nos réglementations. Alors, ça a été un débat extrêmement tendu, difficile. La France, qui défendait ses idées, est partie au début un peu seule. Et puis, le gouvernement d'Édouard Balladur, le président Mitterrand, a réussi à convaincre les Allemands que la défense de la création était quand même une cause noble. Ils ont réussi à fédérer un certain nombre d'autres pays européens. Les Américains ont poussé sur le sujet, mais à un moment donné, le gouvernement américain a lâché Hollywood, estimant que les avantages d'une libéralisation et d'un accord de libéralisation sans inclure l'audiovisuel étaient supérieurs à ceux de pas d'accord du tout. Et donc la négociation, ça s'est passé, moi j'étais là à la fin, alors c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a eu, il faut savoir aussi que dans ces négociations, ce n'est pas chaque pays européen qui discute. Le mandat de négociation appartient à la Commission européenne. Et à l'époque, le commissaire européen qui négociait, c'était un commissaire anglais, Sir Leon Brittan. Et comme il avait vu que les Américains étaient très attirés par une ouverture européenne sur les sujets audiovisuels, il voulait s'en servir comme monnaie d'échange pour obtenir des avantages pour l'Europe en matière de services financiers, d'assurance et d'autres choses. Bon. Et puis à la fin, la négociation s'est focalisée sur un débat entre l'audiovisuel et le transport maritime. Parce que les Européens étaient fermés sur l'audiovisuel, les Américains était ouvert, n'avait pas de barrière réglementaire sur l'audiovisuel, mais avait des barrières réglementaires très fortes sur le transport maritime. Et donc le débat, c'était est-ce qu'on ouvre les deux secteurs ou est-ce qu'on laisse les deux secteurs fermés? Et en réalité, il n'y a pas eu d'échange, ce qu'on appelle de trade-off, entre le transport maritime et l'audiovisuel. Ce qui fait que les meilleurs alliés, nos meilleurs alliés à nous, pour défendre l'exception culturelle, le non-engagement de libéralisation en matière audiovisuelle, c'était le shipping américain, le transport maritime américain. Donc chaque fois qu'on voyait à Genève nos amis d'Hollywood, Jacques Valenti et toutes ses troupes, on leur disait qu'on avait rencontré les gens du transport maritime aux États-Unis, qu'on avait d'excellentes relations avec eux, que ça se passait bien. Enfin, on faisait toute une intoxication qui est normale dans ce genre de discussion. Donc, la négociation s'est terminée vers le... Je crois que c'était le 13 décembre 2013. Il y avait eu avant quelques épisodes parce que Sir Leon Brittan avait lâché le secteur audiovisuel, mais les Américains avaient demandé en plus des avantages sur le droit d'auteur, la rémunération copie privée que l'Europe ne pouvait pas leur donner. À ce moment-là, le gouvernement français, voyant que Brittan lâchait, montait au créneau, c'est Alain Juppé qui était ministre à l'époque des Affaires étrangères, qui est monté très vigoureusement contre les positions de l'Union européenne. Il y a eu un dernier sursaut, je crois, c'était le 13 décembre, de Clinton qui a appelé Balladur, Cole, Felipe González, qui était à l'époque le patron en Espagne, et je ne me souviens plus qui était là en Grande-Bretagne. Et les Européens n'ont pas lâché, et les États-Unis ont dit on termine la discussion, parce que la négociation devait se finir le 15, mais il fallait que Europe-États-Unis termine le 13, parce qu'ils avaient 2 jours pour faire payer les pauvres. Une fois qu'ils s'étaient mis d'accord entre riches, eh ben, il fallait qu'ils disent aux pauvres, vous, qu'est-ce que vous libéralisez? Et la négociation s'est effectivement terminée le 15, et les accords ont été signés en avril 1994, et c'est ce qu'on appelle les accords de Marrakech. Voilà. Donc, alors, l'exception culturelle. Il n'y a pas d'exception culturelle. Il y a simplement le fait que l'Europe n'a pas offert à la libéralisation ces secteurs, en particulier audiovisuel, et de la musique aussi. Bon. Le concept d'exception culturelle, il a été inventé comme un concept médiatique, parce que si vous expliquez que ce que vous voulez dans la négociation, c'est un non-engagement de libéralisation par absence d'offre, au point de vue com, c'est pas terrible. Et les batailles politiques se gagnent par la communication. Or, le concept d'exception, c'est bien parce que c'est exceptionnel. Bon. Culturel, bon, ça c'est bien, c'est chic, c'est la culture. Et on a vu que notre truc marchait parce que après l'exception culturelle, vous avez vu arriver l'exception agricole. Vous avez les gars sur leur tracteur qui se sont précipités pour nous piquer le truc. Bon. Vous avez vu après l'exception sportive, on a parlé d'exception sportive pour exclure le sport d'un certain nombre de règles de l'Union européenne. Et c'est après cette bataille de l'exception culturelle, quand on s'est lancé dans une deuxième bataille qui a été celle de la Convention UNESCO pour la diversité culturelle, que le concept étant devenu très défensif, un peu le village gaulois des Français contre le reste du monde, on a changé les termes et on a lancé la bataille pour la diversité culturelle. Mais la diversité culturelle, ce n'est que le résultat des politiques d'exception culturelle. Mais on a changé le nom, mais la chose reste la même. Et pourquoi c'est important, ces batailles? Parce qu'il faut bien que vous compreniez que les accords commerciaux, c'est comme le film avec Marilyn Monroe, vous savez, La rivière sans retour. Une fois que vous avez signé, vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire que si vous avez un gouvernement de droite ou de gauche qui signe un accord commercial et qui prend un engagement de libéralisation, ou qui accepte un engagement de libéralisation signé par l'Europe, le gouvernement suivant, s'il veut faire une politique culturelle, il ne peut pas revenir dessus, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que les engagements de libéralisation vous empêche de faire des politiques culturelles positives, de soutien, de discrimination positive en faveur des œuvres audiovisuelles françaises ou européennes. Et toutes ces politiques qui, en France, fonctionnent relativement bien, en tout cas pour le cinéma, puisqu'on a un cinéma français extrêmement puissant, et en tout cas beaucoup plus puissant que les autres cinémas européens, vous n'avez plus le droit de les faire. Vous ne pouvez pas changer. Si vous voulez rechanger les règles, bah vous êtes obligé de réunir à nouveau une conférence internationale du commerce. Enfin, ça vous prendra 15 ans. Le seul texte sur lequel on est revenu, parce que ça avait été un scandale en matière de libéralisation et de protection, ce sont les accords TRIPS, qui étaient des accords sur la protection de la propriété intellectuelle et les médicaments, qui étaient parallèles aux négociations du GATT. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces accords, c'est des accords qui permettaient de protéger en particulier l'industrie pharmaceutique. Et c'est des accords qui empêchaient la fourniture à bas prix de médicaments aux pays des tiers-monde. Alors ça a fait un tel scandale qu'on ne pouvait pas soigner en particulier le sida dans les pays d'Afrique parce qu'il y avait des protections pour les médicaments, qu'au sein de l'OMC, ils sont revenus sur un certain nombre de protection de l'industrie pharmaceutique qui avait été négociée. Mais c'est rarissime. Il faut qu'il y ait vraiment un enjeu extrêmement puissant. Et là, c'est la mort et la vie de millions de personnes qui sont en jeu pour qu'on revienne sur ce type d'accord. Donc le concept de l'exception culturelle, concept, je le redis, médiatique, politique, mais pas juridique, a été forgé dans l'année 92-93. Alors, c'est plus qui l'a inventé. Il dit que c'est moi, Jacques Lang dit que c'est lui. Enfin, chacun, bon. Mais c'est pas grave. La victoire a toujours beaucoup de pères et la défaite, voilà. Et c'est un concept, en tout cas, qui a fonctionné. Et ça a fonctionné parce que ça, en tout cas en France, ça a mobilisé les Français. Les Français ont réussi à mobiliser les Européens. Et c'est cette victoire de l'exception culturelle qui a permis de maintenir, de favoriser le développement des systèmes de réglementation et de soutien à la production. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous signez un accord commercial, que vous preniez un engagement de libéralisation, dans un premier temps, en général, on ne vous oblige pas à démanteler vos protections. Mais vous ne pouvez pas les adapter, vous ne pouvez pas les améliorer, vous ne pouvez pas les changer. Donc vous avez un système qui va progressivement se nécroser. Bon. Et dans un deuxième temps, au round de suivant, on vous demandera de commencer le démantèlement. Alors que là, on a complètement conservé nos marges de manœuvre. Alors, pourquoi le sujet revient d'actualité? Il va revenir par une double actualité. La première actualité, c'est que les concepts et les protections réglementaires que l'on a prises avec les obligations d'investissement dans la production, les obligations de diffusion des œuvres européennes pour le cinéma, pour les œuvres audiovisuelles, vont devenir de plus en plus poreux au fur et à mesure que vont pouvoir arriver sur le territoire français ou sur d'autres pays européens qui ont pris ces mesures, des services délocalisés qui concurrencent sans respecter les mêmes règles les services nationaux. C'est-à-dire, vous avez par exemple TF1, bon, qui respecte des règles, service public, lui c'est autre chose, il est financement public, il a des règles plus fortes, mais il a un financement public, mais prenons TF1, service privé. Ce service-là, demain, il pourra être concurrencé de façon déloyale dans la conquête du marché publicitaire par Google TV, qui va arriver d'Irlande sans respecter aucune règle, ou qui va arriver du Luxembourg. Il est bien évident que les services nationaux qui créent des emplois sur le territoire national, qui payent leurs impôts, qui contribuent au financement du CNC, vont dire que ce n'est pas normal qu'on soit concurrencé, qu'on soit affaibli par des opérateurs extérieurs. Et si on n'arrive pas à réguler ces opérateurs extérieurs, à trouver des systèmes, d'où la réflexion de Collin et Collin, qui porte d'abord sur l'impôt sur les sociétés, mais si on arrive à soumettre ces entreprises à l'impôt sur les sociétés, on pourra les soumettre à d'autres régulations. Bon, alors vous avez vu que la presse a touché une obole. Alors eux, ils étaient à la sortie de la messe, ils se sont précipités, ils ont tendu la main. Ils ont 60 millions d'euros pour 3 ans. Là, franchement, C'est pas terrible, mais bon, passons, c'est la presse, ils sont en difficulté. Donc quand on voit l'accord qu'ils ont signé avec Google, on comprend pourquoi ils sont en difficulté. Bon. Mais c'est comme ça. Mais vous voyez bien qu'on est dans un monde où les technologies de commerce électronique permettent de s'affranchir de l'espace. Donc vous pouvez, à partir de pays qui n'ont pas les ambitions de la France en matière culturelle, qui font tout pour faire s'implanter ce genre de société dans leur territoire en les soumettant à des règles fiscales beaucoup plus favorables, vous pouvez concurrencer de façon déloyale les opérateurs qui, dans des pays, d'autres pays qui veulent favoriser la création, respectent les règles du jeu. Donc, il y a un enjeu qui est lié au développement des technologies. Et celui-là, il est sur la table. Et c'est ça que j'appelle l'exception culturelle 2.0. C'est le fait qu'il va falloir adapter l'ensemble de nos régulations, de nos réglementations, à l'évolution des technologies. Et il y a un autre sujet dont vous allez entendre parler. Parce que il arrive, là. Vous voyez, ce qu'il y a de bien en politique, c'est que les choses, on les voit arriver. Un peu comme la Naveva, là, dans le film de Fellini. C'est qu'une partie des Européens, même une majorité de pays européens, veulent lancer une négociation commerciale de libéralisation des services avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de pays, en particulier, par exemple, prenons l'Allemagne, ils ont des enjeux de libéralisation commerciale parce qu'aux États-Unis, il y a des normes, par exemple, pour les automobiles. Et chaque fois qu'ils veulent vendre des automobiles aux États-Unis, ils sont obligés de changer un certain nombre de choses dans le moteur, enfin, je ne sais pourquoi, la carrosserie. Enfin, bon, pour être aux normes américaines, et bien évidemment, c'est très coûteux et ça freine leur pénétration sur le marché. Donc, il y a un enjeu et quand vous allez entendre le discours, chaque fois que vous êtes dans une période de crise économique, le discours de la libéralisation pour créer des emplois, alors le discours anti-Montebourg, quelque part, arrive. Et on a ce qu'on appelle les milieux d'affaires, les milieux intéressés, qui disent qu'il faut libéraliser les services, le commerce, ça va créer des emplois et donner un nouveau souffle à l'économie. Pour le moment, les libéralisations successives, à mon avis, ont plutôt détruit des emplois que créé des emplois. Mais bon, ça, c'est une discussion que vous aurez avec des spécialistes de l'économie. Et donc, ça arrive. Ça, c'est le premier enjeu, et c'est poussé par cela pour favoriser un nouveau dynamisme de l'économie entre ces deux grands ensembles commerciaux que sont l'Europe et les États-Unis, parce que les ensembles commerciaux ont compris qu'ils ne pouvaient plus avancer au sein de l'OMC. Parce que l'OMC, c'est la règle de l'unanimité. Vous avez 140 gus à l'OMC, s'il y en a un qui dit non, il n'y a pas d'accord à l'OMC. Alors les 139 consignés peuvent lui tordre le bras, si c'est un petit, ils y arriveront. Mais c'est quand même compliqué parce qu'il faut créer le consensus. Et le deuxième sujet, c'est que le nouvel empire qui arrive, celui dont la croissance est la plus forte, celui qui est en réalité le plus protectionniste, il a même réussi à bouter Murdoch hors de chez lui, lui voler ses sabres, enfin bon, il est très malin cet empire, c'est l'empire chinois. Et donc, l'Europe et les États-Unis ont intérêt à négocier un accord commercial pour mettre sur la table un certain nombre de normes de libéralisation pour pouvoir ensuite les imposer aux Chinois. Puisque le marché de l'avenir, celui sur lequel il y aura certainement des développements importants, en tout cas en termes d'exportation, c'est quand même le marché chinois. Et le marché chinois, il est ouvert d'un certain côté, mais en réalité, il est quand même extrêmement fermé. Il y a encore, par exemple, en matière de cinéma, je crois qu'il y a toujours des quotas d'importation, des contingents d'importation en nombre de films. C'est-à-dire les Américains, les Européens n'ont pas le droit de diffuser plus d'un certain nombre de films par an. Nous, on avait ça en France. C'était en 1947. On les a fait sauter dans le cadre des accords Bloomberg. C'est comme ça qu'a été créé le CNC, le compte de soutien pour contrebalancer le fait qu'on supprimait le nombre de films, la limitation du nombre de films américains qui pouvaient être diffusés sur le territoire français. Donc, le deuxième sujet qui va faire revenir à l'ordre du jour l'exception culturelle, parce qu'après je vous parlerai de la fausse exception culturelle, celle de Pierre Lescure. Je vous dirai pourquoi elle est fausse. L'exception, alors parce que ça c'est encore un autre, ça c'est encore de la politique. Donc, qui va faire revenir l'exception culturelle, c'est ces négociations commerciales avec les États-Unis, qui normalement devraient être enclenchées au cours du premier semestre de l'année 2013, donc de cette année, parce que quel est le pays qui préside actuellement l'Union européenne ? Le plus tricheur de tous au point de vue impôt. Si vous devez vous installer quelque part et ne pas payer d'impôts, vous allez où ? Mais non, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Oh là 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 là, les étudiants, quoi ? Mais non, ça c'est Depardieu, mauvais. L'Irlande, voilà, l'Irlande, bravo, bravo, bravo. Voilà, là vous avez 20. Bon, l'Irlande, non, la Suisse, le jour où la Suisse sera dans l'Union européenne, il n'y aura plus de Suisse, parce qu'à ce moment-là, ils seront obligés de respecter un certain nombre de règles fiscales. Bon. Et on saura tout sur les comptes qui sont ouverts en Suisse. Je fais allusion à rien, vous voyez. Bien sûr, bon. Donc, c'est l'Irlande qui préside, et l'Irlande a mis en tant que priorité de sa présidence, chaque pays qui préside l'Union européenne se met en avant une priorité, c'est l'ouverture de ces négociations. Alors, en ce moment d'ailleurs, les Américains, ils sont très malins. Vous avez une bande d'Européens, là, les négociateurs commerciaux européens, qui font une danse du ventre, des sept voiles devant les négociateurs américains. Et eux, ils disent, oh ben oui, pourquoi pas, non, finalement, c'est pas notre intérêt, parce que c'est pas si facile pour que ça, aux Américains, d'ouvrir des négociations commerciales. Les Américains sont en réalité très protectionnistes. Et il faut savoir que les Américains, pour que le président puisse négocier correctement un accord commercial, il faut que le président des États-Unis, l'exécutif, donc, obtiennent un mandat du Congrès. Ce mandat, c'est le fast-track. S'il obtient le fast-track, il a une certaine liberté de négociation, parce qu'une fois qu'il a fini sa négociation, le Congrès peut refuser, mais c'est tout ou rien. J'accepte ou je refuse. Donc, c'est un bloc. Bon. Si le président n'a pas le fast-track, ce qu'on appelle le mandat de négociation rapide, le Congrès peut mettre son nez dans la tambouille tout le temps. Sur toutes les affaires. Alors, tous les lobbies américains, naturellement, font pression à chaque instant sur les négociateurs pour bloquer les négociations. Donc, ça rend en réalité, si l'exécutif américain n'a pas le fast-track, l'exécutif américain n'est pas crédible pour négocier par rapport à son partenaire. Voilà. Donc, deuxième sujet qui peut faire capoter ces négociations, c'est que tout va dépendre si les Américains peuvent ou pas mettre dans la négociation les réglementations infra-étatiques. Vous savez que les États-Unis sont un pays fédéral et que beaucoup de réglementations protectionnistes ne sont pas au niveau de l'État fédéral, mais sont au niveau des États fédérés. La Californie et tout ça, tout ce que vous voulez. Et il y a d'ailleurs des législations très différentes. Il y a un truc, par exemple. Est-ce que quelqu'un sait où est le siège d'Apple ?
Californie,
bravo, à Cupertino, Californie. Eh bien, Californie, les impôts sont élevés. Des impôts. Pourquoi ils sont élevés ? Parce que c'est un État compliqué, qu'il faut lutter contre les incendies. Enfin bon, c'est pas simple, la Californie. Et puis, il y a une population nombreuse. Donc, quand il y a une population nombreuse, il y a des dépenses, il y a des services publics, il y a des pauvres, enfin bon, il y a des services sociaux. Juste à côté de la Californie, pour ceux qui ont été voyager aux États-Unis, il y a un autre État qui est très riche. Non, très riche. Vous qui faites du cinéma, il y a un film de Martin Scorsese. Le Nevada avec Casino, évidemment. Casino. Bon. Le Nevada est très riche parce que il y a les jeux et tout ça, Las Vegas, tout ça. Bon. Eh bien, Apple a trouvé une astuce pour faire transiter ses revenus, alors son siège est en Californie, par le Nevada. Alors, je parle des revenus américains, parce que les revenus en Europe, ils les font transiter par les îles Vierges, les Bermudes, enfin, dans le rapport Colin et Colin, on vous explique ça, le double sandwich hollandais, enfin, il y a des tas de systèmes. Ces grandes entreprises américaines sont très fortes en termes d'innovation technologique, mais elles sont encore plus fortes en termes d'innovation fiscale. C'est-à-dire, ils sont champions pour ne pas payer d'impôts. Nous, on en a des champions pour moins payer d'impôts total et tout. Mais à côté de ces géants américains, ce sont des gamins. Quoi. Voilà. Donc, dans cette négociation-là, pour la culture, ça va se jouer dans les mois qui viennent, puisque la commission pour engager les négociations va devoir demander aux différents États quel est mon mandat. Qu'est-ce que j'ai le droit de négocier? Et c'est là qu'il va falloir que notre président, François Hollande, le bien-aimé, celui qui a été élu, bah oui, il a été élu, ne contestez pas, et bien élu d'ailleurs, négocie le mandat, et dans le mandat, dise que l'audiovisuel ne peut pas être offert à la négociation. Mais où ça se complique? Et là, vous allez rentrer dans la grande technique. Alors là, vous allez souffrir. Bon. C'est que la négociation du GATS était ce qu'on appelle une négociation bottom-up. C'est-à-dire que n'est ouvert à la libéralisation que ce qui est offert à la libéralisation. Tous les secteurs sont dans la discussion, mais à l'intérieur des secteurs n'est libéralisé ce que l'on a listé comme devant être libéralisé. Ça, c'est la négociation GATS classique telle qu'elle s'est passée. Dans les nouvelles négociations, et c'est en particulier celle qui nous est imposée par le Canada, qui est en cours, on est dans ce qu'on appelle une négociation top-down, c'est-à-dire liste négative, c'est-à-dire ce qui n'est pas retiré de la discussion, de la libéralisation, est inclus. Donc si vous vous plantez, si vous définissez mal, si vous écrivez mal le périmètre du secteur, dans l'interprétation qu'il y aura après, si vous prenez une mesure réglementaire et que des entreprises attaquent ou des États attaquent, parce que le caractère de ces négociations commerciales, c'est que les entreprises peuvent aussi attaquer les États s'ils ne respectent pas certaines règles. Si vous vous trompez, si vous écrivez mal, vous êtes inclus dans le périmètre de libéralisation. Et si vous êtes inclus dans le périmètre de libéralisation, ça veut dire qu'il y a un certain type de réglementation discriminatoire que vous ne pourrez plus adopter. Deuxième complication, c'est la définition de qu'est-ce qu'est l'audiovisuel. Lorsqu'on discutait en 1993, l'audiovisuel, c'était simple. C'était ce qui était émis par câble, par wireless, par satellite. Mais maintenant, il y a tout ce qu'on appelle les nouveaux services, les services délivrés par Internet, et la tentative que vont certainement faire les Américains. Je ne pense pas que les Américains vont s'attaquer à l'audiovisuel classique, mais ils vont certainement essayer de faire ripper du côté des télécoms, où les Européens sont assez puissants, parce qu'ils ont des intérêts offensifs pour demander de la libéralisation aux États-Unis. Ils vont essayer de faire ripper vers les télécoms les services culturels délivrés par voie électronique. Donc, l'objectif de mettez-vous du côté d'Hollywood et des Américains, ils vont avoir un comme objectif de négociation. Ils ne vont pas s'attaquer donc à l'audiovisuel classique et traditionnel, je ne crois pas. Mais ils vont avoir comme objectif de négociation d'inclure dans le périmètre de la libéralisation les services culturels délivrés par Internet. Et ils sont d'autant plus tentés de le faire que les entreprises leaders mondiaux de ces services-là sont toutes des entreprises américaines. Il s'est passé quelque chose hier. Ceux qui sont sur Twitter suivent peut-être ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une directive européenne qui vise à créer, ou alors l'Europe dit que non, mais une sorte de droit à l'oubli numérique. C'est-à-dire en gros qu'on peut récupérer ses données personnelles et tout ça. Ça rejoint un peu le périmètre des colas et colas, vous savez, la taxe sur les enfants. Les Américains ont dit que si l'Europe faisait ça, ils considéraient que l'Europe entrait en guerre commerciale avec eux. Ça veut dire que les Américains considèrent que les données numériques des Européens sont un bien commercial qu'ils se sont appropriés. Et s'ils disent ça, c'est pour protéger naturellement leurs grandes entreprises Internet. Chaque fois que vous allez sur Google, là, vous devez y être, là. Je vois la marque aux fruits, là. Je ne la cite plus car elle ne paye pas les auteurs pour la copie privée. Ils font des procès, mais ils ne payent pas. Ils vous font payer quand vous achetez un smartphone, un iPad. Vous payez, mais ils ne reversent pas au créateur. Donc, changez de marque. Hein, bon. Donc, la marque aux fruits. C'est comme Blanche-Neige, vous savez, la pomme empoisonnée. La marque aux fruits, évidemment, elle va être bien défendue par le gouvernement américain. Tout simplement parce que c'est une des entreprises les plus rentables du monde et que ces géants de l'Internet sont les fers de lance des services et du commerce américain. Donc, si des négociations, et il y a de fortes chances qu'elles soient engagées entre l'Europe et les États-Unis sur le plan de la libéralisation des services, alors naturellement la partie audiovisuelle, services culturels, ne sera qu'une toute petite partie. Il va y avoir des batailles de tranchées sur les assurances, les services financiers, enfin plein de choses. Mais il est évident que les questions culturelles seront encore beaucoup plus sensibles que en 93, parce que en 93, qu'est-ce qu'on avait comme adversaire? Ben, on avait le vieux Jack Valenti, finalement bien sympa, francophile, admirateur de Talleyrand. Le premier film qu'il adorait, c'était le film de Sacha Guitry, Le Diable boiteux. Bon, voilà. Mais là, on va se retrouver avec les mêmes, les mêmes pieds et tout, plus les géants de l'Internet américain. Et ces géants sont extrêmement influents. Pourquoi? Vous savez tous qu'aux États-Unis, une campagne électorale, ça coûte très 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 cher. Beaucoup plus cher qu'en France. En France, c'est nous qui payons la campagne. Alors, il y a quelques noms. Éric Woerth s'est spécialisé là-dedans. Bon. Mais c'est surtout les fonds publics qui financent la campagne. Bon. Ou des valises à une autre campagne électorale. Mais aux États-Unis, il y a quelques limitations, mais comme c'est une campagne qui couvre tous les États, et les États-Unis sont quand même immenses, comme c'est une campagne qui autorise la publicité à la télévision, positive et négative. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire aux États-Unis de faire un spot pour dire Obama est un pourri et tout ça. Vous pouvez le mettre en scène Obama, lâche, nul, et tout. Il y a énormément de publicité qui est faite et qui est de la publicité négative. Et cette publicité négative, les Américains dépensent beaucoup d'argent, en particulier dans ce qu'on appelle les États clés, c'est-à-dire les États qui vont faire basculer les votes. Bon. Eh bien, toute une partie de ce financement provient de ces grandes entreprises qui ont été des atouts, en particulier dans la campagne démocrate. Et paradoxalement, je dirais que c'est très mauvais pour la culture européenne, la réélection d'Obama. Très mauvais. Parce que quand c'était les Républicains détestaient Hollywood, puisque Hollywood finançait leurs concurrents. Et financiers et démocrates. Les grandes entreprises du net étaient plutôt financiers aussi des démocrates. Tandis que là, on a un candidat qui connaît bien d'ailleurs le secteur d'Internet, qui a gagné sa campagne grâce à une très bonne utilisation la fois dernière, mais cette fois-ci aussi, des outils Internet, Facebook, Twitter, les listings, enfin tout, et qui, c'est probable, fera tout pour protéger ces grandes entreprises du net. Quand il y a eu une offensive, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des majors d'Hollywood contre les grandes entreprises Internet. C'était une entreprise pour faire adopter des lois SOPA, PIPA, qui avait pour objectif de protéger la propriété intellectuelle au titre de la diffusion sur Internet lorsque les entreprises Internet et les particuliers ne respectaient pas le droit d'auteur. Eh bien, le gouvernement, au final, n'a pas donné raison à Hollywood. Il a donné raison aux entreprises Internet. Alors, il y a eu ensuite des accords qui ont été passés avec, entre les entreprises Internet. Google a fait un certain nombre d'efforts pour enlever les liens illicites. Mais globalement, le gouvernement a plutôt soutenu les entreprises Internet, alors que traditionnellement, jusqu'à une date assez récente, les gouvernements, et en particulier les démocrates, étaient toujours des soutiens attitrés de la création américaine d'Hollywood, aussi bien des producteurs que des auteurs et des ayants droit. Or là, dans les discussions qui auront lieu entre l'Europe et les États-Unis, les deux qui se bagarraient sur le droit d'auteur, on va les avoir en face de nous. Donc on va avoir d'un côté les Google, Facebook, machin et compagnie, plus les majors d'Hollywood. Et il faut que vous sachiez qu'au sein de l'Union européenne, Apple, tout ça, la marque aux fruits là, que je vois devant moi, là, ça me nave, mais enfin bon, ils ont beaucoup de relais, parce que vu de l'Union européenne, vu de Bruxelles, où on est libéral, ils sont à la mode, ils sont genre, ils sont hype, enfin tout ce que vous voulez, c'est chic de les soutenir, et beaucoup plus chic que de soutenir la création européenne. Donc, l'exception culturelle 2.0 va se poser de deux manières. Un, une nécessité d'adapter les réglementations et de remettre en place des régulations effectives et efficaces qui s'appliquent à des entreprises qui peuvent délocaliser leurs activités. Parce que si on n'y arrive pas, évidemment, les entreprises nationales diront bah, « c'est pas normal que nous, qui payons nos impôts, qui respectons les règles du jeu, on soit en situation de concurrence déloyale avec ces gens-là ». Et deux, parce que des négociations commerciales avec la principale puissance qui a toujours été intéressée à démanteler le système de protection européen et en particulier le système le plus sophistiqué qui est le système français de soutien au cinéma, vont certainement s'engager cette année. Alors, c'est pas encore sûr, mais elles vont s'engager cette année. Naturellement, ces discussions, ça aboutit pas tout de suite, ça va durer entre 2 et 4 ans. Certaines n'aboutissent jamais. Il y a eu un exemple, c'était la négociation de l'accord multilatéral sur l'investissement, qui était une négociation de libéralisation des investissements, qui a duré 6-7 ans, et puis à un moment donné, la France a dit « j'arrête », et tous les autres pays ont dit « j'arrête », et la négociation finalement n'a pas abouti. Il y a eu la négociation récente aussi d'un traité qui avait été signé par les parties prenantes, l'Union européenne, les États-Unis, je crois qu'il y avait le Japon, l'Australie, qui était le traité ACTA sur la propriété intellectuelle et qui a été rejeté par le Parlement européen. Mais ces questions vont revenir d'actualité. Alors, l'autre exception culturelle, là je vous ai parlé de la vraie exception culturelle, celle qui vise à protéger les systèmes réglementaires, les politiques de soutien à la création au cinéma, des négociations commerciales internationales. Alors, je vous explique bien le truc. Si vous n'avez pas d'engagement de libéralisation, vous avez le droit de faire une politique culturelle discriminatoire, des quotas, des obligations d'investissement dans les films de votre langue, de votre nationalité. Enfin, en Europe, la nationalité, c'est Europe. Vous n'avez pas le droit de soutenir les films français. On soutient les films, nous, de langue française. On est astucieux, vous voyez. Je n'ai pas le droit de dire « je fais un quota de films français ». J'ai le droit de dire « je fais un quota de langue française ». ça revient à peu près au même. Bon, j'ai les Canadiens, les Belges dans mon quota, quelques Africains, mais enfin, en gros, ça revient à peu près au même. Bon. Donc ça, j'ai le droit, je n'ai pas pris d'engagement de libéralisation, j'ai le droit de faire une politique. Ce n'est pas parce que j'ai le droit à une politique que j'ai un gouvernement qui va la faire. Ce n'est pas parce que j'ai le droit de faire une politique que le gouvernement va faire une bonne politique. Mais ce que vous comprenez bien, c'est que si je perds le droit, parce que je signe l'accord de libéralisation, de faire la politique, je ne peux plus rien faire. Je suis coincé au plus haut niveau. Donc la base de tout, c'est pour ça que c'est important ces questions d'exception culturelle, et que si vous voulez travailler dans le cinéma, et que par malheur, le gouvernement français ne se bat pas, l'Europe abdique devant les Américains, je vous conseille de changer de métier et d'orientation. Alors, vous n'irez pas vers les agriculteurs, parce qu'on aura aussi abdiqué, certainement, dans la négociation. Je ne sais pas dans quel secteur vous irez. Le tourisme, oui, il y aura beaucoup de Chinois qui viendront en France, bon, peut-être. Bon. Mais ça va, ça serait compliqué. Donc ça, c'est la base. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que si on perd ces marges de manœuvre, cette sorte de, on pourrait qualifier ça de souveraineté culturelle, ou d'indépendance, c'est-à-dire la capacité de mener une politique, bonne ou mauvaise. Et puis si on perd ça, on perd tout. Si on a une politique qui est menée par un gouvernement, si on garde ça, qu'on a une politique menée par un gouvernement en matière culturelle, tiens, un gouvernement qui augmente la TVA sur les salles de cinéma. Je dis ça au hasard. Bon, un gouvernement socialiste, d'ailleurs, qui a fait ça, bon, qui veut le faire. Bon. Ça peut changer. Changement de gouvernement, on peut revenir dessus. Par contre, si on perd au niveau supérieur, on ne peut pas revenir dessus. C'est pour ça que c'est fondamental. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et puis après, il y a la politique. Vous avez un mauvais gouvernement, un mauvais président, vous voulez farcisser pendant 5 ans. Bon, ils ont fait une mauvaise politique, vous vous portez mal, mais vous pouvez avoir l'espoir que 5 ans après, des meilleurs arriveront et changeront la politique. Par contre, si vous signez l'accord en haut, et ils abdiquent au niveau de la défense de la création et de la culture dans les accords commerciaux, c'est foutu. C'est Marilyn Monroe, sans retour. Voilà. Mais sans que ce soit aussi mignon, joli, agréable que Marine. Bon. Donc voilà le sujet. Alors, l'autre sujet, l'exception culturelle, comment ça s'appelait le truc de l'escure, ça s'appelle comment? J'ai même plus le titre de la mission. La mission pour... oui, pour... Quoi? Pour l'exception... Oui, oui. Non, ils ont appelé ça aussi exception culturelle. Bon. Ça, c'est autre chose. Ils ont appelé ça exception culturelle. Et en réalité, c'est une mission dont l'objectif est d'essayer de trouver, non pas, ne porte pas sur les questions commerciales de négociation et de libéralisation, mais c'est pour essayer de trouver des solutions par rapport au problème de droit d'auteur sur Internet. Bon, vous savez, il y a eu la politique du gouvernement précédent, la création de l'ADOPI. Bon, alors maintenant, l'ADOPI, c'est assez drôle parce que il y avait les détracteurs de l'ADOPI au moment où l'ADOPI a été adoptée, c'était en particulier tous les socialistes à l'Assemblée. Ils disaient, mais c'est répressif, c'est méchant, c'est tout. À l'arrivée, il y a deux types qui se sont pris quelque chose. C'est bisounours, ADOPI. Quoi. Il y a moins de gens qui ont été sanctionnés avant, après, qu'avant. Bon. Et il y en a les mêmes qui reprochaient... Non, mais c'est vrai, les mêmes qui reprochaient à ADOPI d'être un truc terrifiant, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est la Corée du Nord, ils disent maintenant, mais pourquoi on a mis tant d'argent dans une institution qui n'a sanctionné personne? En fait, elle n'a pas à sanctionner, puisqu'elle, elle est faite pour faire des avertissements. Et éventuellement, elle transmet au juge, mais je crois qu'il y a eu deux personnes transmises au juge qui ont été sanctionnées. Donc la logique, maintenant, est inverse. Donc, l'escure, comme les socialistes ont tenu un discours très anti-ADOPI, et comme ils sont aussi conscients qu'il faut protéger la propriété intellectuelle, parce que si les particuliers peuvent échanger des films, les séries, sans qu'il y ait rémunération de la création et des producteurs, vous qui allez faire ce métier, vous comprenez qu'il y a un petit problème. Bon. Donc, ils ont chargé Pierre Lescure, qui est une personnalité très compétente, il n'y a pas de problème, il était patron de Canal et il est très proche de François Hollande, de réfléchir à des solutions nouvelles, des solutions de compromis, qui permettraient, en gros, de garder le système en changeant le nom, bon, parce que c'est ça la politique, hein, c'est toujours de faire du neuf dans les vieux plats, bon. Donc, en changeant le nom, de protéger la création, et surtout, ce qui n'a pas été fait, ça c'est la faiblesse de l'Hadopi, le système Hadopi, qui est un système d'avertissement, il était fait pour dire aux gens, c'est pas bien ce que vous faites là, peer-to-peer, tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien, allez vers l'offre légale. Et toutes les études qui ont été faites montrent que le système fonctionne à peu près dans le secteur de la musique. Et pourquoi il fonctionne dans le secteur de la musique? Parce que le secteur de la musique, qui a été complètement sinistré parce que la musique n'a pas su s'adapter à l'arrivée d'Internet, ils étaient toujours à la galette CD alors qu'il y avait déjà les échanges Internet, elle a depuis développé des systèmes d'écoute en ligne, Spotify, iTunes, enfin il y a une offre légale très importante en matière de musique. Alors que dans le cinéma et l'audiovisuel, vous n'avez rien. Si vous êtes accro d'une série, bon, la télé vous sort une série, ils vont vous accrocher, là vous êtes complètement pris par les personnages, hop, vous ne l'avez pas. Vous devez attendre un an pour l'avoir parce que le diffuseur français va le temps qu'il fasse le doublage, qu'il exploite. Donc comme vous êtes accro, ils vous ont bien accroché pour voir Mad Men, enfin tous ces trucs-là, vous voyez, c'est vous allez les télécharger dans la version canadienne, française. Et puis, la version anglaise, comme vous parlez tous parfaitement l'anglais, vous allez avoir la version anglaise. Mais c'est parce que vous êtes un consommateur, c'est pas que les gens ont envie de pirater, c'est que c'est des consommateurs assoiffés qui ont envie, et accros, qui ont envie de leur truc. Ce qui fait que d'ailleurs, ce qui est le plus piraté actuellement dans l'audiovisuel, ce sont les séries, c'est pas les films. Et en cinéma, compte tenu du fait que la disponibilité des films à la télévision et en offre même de vidéo est quand même relativement longue par rapport aux sorties salles, eh ben, il se crée un espace où les gens, que les gens utilisent pour pirater. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé « mission Lescure pour l'exception culturelle », c'est axé sur les questions de droit d'auteur. Mais ça n'a rien à voir, c'est ce que j'ai expliqué un jour dans un blog, avec la véritable exception culturelle qui est de préserver nos capacités de négociation sur le plan commercial. Mais l'ironie de l'histoire pour ces gens qui ont ressorti du placard l'exception culturelle, alors qu'on était passé sur les négociations commerciales à la diversité culturelle, l'ironie de l'histoire, c'est que l'exception culturelle, la vraie, le golem de l'exception culturelle, il réapparaît. Et il va réapparaître là avec les négociations avec les Américains. Donc ils vont se trouver confrontés à un problème de sémantique qui va être un problème de politique, c'est qu'ils vont dire exception culturelle, mais comme l'exception culturelle, c'est marqué, c'est quand même à la base des négociations commerciales, ça va les obliger à être très intransigeants sur la question du mandat qui va se poser dans les semaines qui viennent, parce qu'ils ne peuvent pas tenir un discours de défense de l'exception culturelle et l'abandonner dans ce qu'elle est symboliquement et structurellement forte, c'est-à-dire les questions de commerce. Donc voilà pour un peu la problématique qui se pose. D'un côté, des modifications structures de diffusion qui vont mettre en cause les systèmes réglementaires. Et si la France a un cinéma qui est le premier cinéma d'Europe de très loin, en gros le deuxième du monde occidental, derrière les Américains, loin derrière les Américains, mais quand même, c'est parce que les réalisateurs, nos créateurs, nos artistes interprètes sont les meilleurs, ils sont bons, ils sont meilleurs que les Anglais, que les Italiens, que les Espagnols. Non, c'est parce qu'on a un système de soutien à la création hyper performant, avec le CNC, les obligations d'investissement, ce qui a été imposé comme règle à Canal+, alors que, par exemple, prenons les Anglais. Les Anglais qui dominaient le cinéma européen après-guerre. Ils ont été pareillés de la carte, il y a encore un cinéma anglais. Mais enfin, ils ont un cinéma très faible, alors qu'ils ont la langue internationale. Ils ont la même langue que les Américains, l'anglais. Bon. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su mettre en place des structures de financement. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, et je l'expliquerai plutôt la fois prochaine, c'est que le système de financement du CNC, qui repose pas sur le budget de l'État, mais sur des taxes parafiscales, une taxe sur les salles, une taxe sur la télévision, une taxe sur la vidéo, une taxe sur la VOD, une taxe sur les offres triple play, et n'est pas directement touché par les restrictions de crédit budgétaire. Alors, dans tous les autres pays d'Europe, comme les fonds qui financent la culture viennent des budgets de l'État, quand vous avez des restrictions budgétaires, et tous les pays d'Europe, il y a des restrictions budgétaires parce qu'il faut mettre fin au déficit, sinon vous ne respectez pas les critères de Maastricht, vous perdez votre triple A, votre double A, votre A simple quand vous êtes plus mauvais. Bon. Eh bien, les pays ont réduit les crédits budgétaires. L'Espagne, qui avait un cinéma qui est bon, son cinéma, le Centre national du cinéma espagnol, a vu ses crédits baisser de 40%. Et la TVA sur les salles, la TVA, est passée à 21%. Avec ce paradoxe, c'est qu'en Espagne, par exemple, vous allez voir un film en salle, vous allez payer à l'État espagnol une TVA de 21%. Bon. Vous regardez le même film sur iTunes, là, sur la marque aux fruits, là. Ben, vous ne payez aucune TVA, et les Luxembourgeois vont imposer une TVA à 6 ou 7, on ne sait même pas à quel taux elle est, d'ailleurs, parce qu'ils ont un système très roublard. Bon. Et donc, la salle est totalement pénalisée par rapport au commerce électronique des œuvres importées de l'extérieur, qui ne vont créer aucun emploi sur le territoire espagnol. Donc, vous avez quand même... Alors, derrière le problème des biens culturels, alors les biens culturels sont les plus affectés parce que, je ne sais pas si vous le faites, mais si vous voulez maintenant regarder lire un livre, bon, qui est au papier encore? Vous êtes au papier encore? Non, mais alors, moi, non, mais attendez, là, vous passez par les systèmes Kindle, celui de la Fnac et tout ça, tac, vous appuyez, vous cliquez une fois, vous avez votre bouquin. Si vous voulez des œuvres du domaine public, vous téléchargez, ça vous coûte quasiment rien, tout Balzac, tout Maupassant, Stendhal, enfin tout ça. Et vous emmenez ça sur votre Kindle, sur votre truc de Marco Fruit, enfin voilà. Bon. Donc, il y a quand même des modifications, et vous voyez que ces modifications ont des incidences en termes d'emploi, l'exemple le plus récent étant la fermeture du Virgin sur les Champs-Élysées. Parce qu'à partir du moment où le commerce se dématérialise, cela supprime les commerçants. Donc ce qui a touché Virgin, la Fnac, si vous allez à la Fnac, moi j'allais à la Fnac il y a 10 ans, mais le week-end, alors les Fnac c'était bourré. Vous êtes serré maintenant dans les Fnac Oh, maintenant, il y a de la place. Les vendeurs, ils sont plus libres pour vous parler, pour papoter. Bon. D'ailleurs, à tel point, vous discutez avec le vendeur à la Fnac, et puis après, vous allez acheter sur Internet. Bon. Donc, ces modifications structurelles qui affectent la commercialisation des biens culturels vont affecter aussi l'ensemble de l'économie. Et le problème qu'il y a pour les États, c'est que les couillons, comme vous et moi, nous, on ne bouge pas, donc on va rester là, on va continuer à payer nos impôts. Par contre, ceux qui font des affaires et qui se sont installés en Irlande, au Luxembourg et ailleurs, qui font des actes commerciaux, ils ne payent rien et ils ne contribuent pas au développement national et à une politique de l'emploi. Alors, ils contribueront en matière de TVA en 2019, 2017 reporté en 2019, parce que, ça c'est une décision importante qui a été prise par l'Union européenne, la TVA sera acquittée maintenant sur le pays de consommation et pas sur le pays d'émission. Bon, il y aura des changements en matière de TVA. Et là, on pourra récupérer, mais en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de régulation pour les activités culturelles, la question est toujours pendante et n'est pas réglée. Ça sera peut-être demain pareil pour le commerce automobile. On pourra peut-être, imaginons qu'on puisse acheter ses voitures sur Internet aussi simplement quand on va dans une concession. Les concessionnaires automobiles, ils ont du souci à se faire. Bon, parce que l'Internet a aussi cette caractéristique, c'est qu'avec ses moteurs de recherche et ses comparateurs de prix, il favorise le prix le plus bas. Bon, maintenant, si vous prenez un billet d'avion et que vous n'avez pas la curiosité d'aller sur un comparateur de prix, vous allez payer votre billet beaucoup plus cher, et si vous payez vos billets beaucoup plus cher, vous pourrez vous payer moins de verres en boîte de nuit. Hein? Ah oui, vous pourrez moins faire la fête, moins de trucs sympas. Quoi. Donc, mais il y a, alors qu'avant, si vous vouliez comparer, rien que ça, comparer les prix, bah, il fallait avoir une pile de catalogues, regarder, feuilleter, enfin... Donc il y a tout un système de fluidité dans le commerce qui fait baisser les prix, qui est favorable aux consommateurs, c'est indubitablement favorable aux consommateurs, mais qui n'est pas favorable ni aux industries, ni aux créateurs. Et ceux qui s'enrichissent, ce ne sont pas ceux qui créent, ce sont ceux qui sont les intermédiaires qui ont mis en place ces systèmes. Google est un intermédiaire. C'est pas lui qui crée ce qu'on appelle le mot affreux en anglais, là, le contenu. Maintenant, ils vous le disent, le contenu. On ne vous parle plus des films, on ne vous parle plus des musiques, on vous parle du contenu. Bon. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui vous parle de contenu, c'est soit qu'il est chez Google, soit qu'il est chez Apple, soit qu'il travaille dans les télécoms. Hein? N'oubliez pas ça. Bon. Donc, ceux qui créent les œuvres sont pénalisés, et ceux qui gèrent les tuyaux sont aussi pénalisés. Puisque ceux qui gèrent, par exemple, chez les télécoms, la valeur, elle n'est plus chez les télécoms, elle est chez les intermédiaires. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on peut appeler l'exception culturelle 2.0. C'est toute la réflexion, et on en est au début de cette réflexion, de comment va-t-on moderniser une réglementation favorable à la création qui est faite pour que ceux qui ont du talent, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent faire des œuvres... Et ces œuvres sont quand même l'expression de l'âme d'un pays. Bon, parce que quand on n'a que des œuvres importées, c'est quand même un peu tristounet. Comment faire en sorte que cette réglementation soit adaptée aux temps modernes? Et les temps modernes sont dominés par le phénomène de la technologie et d'Internet. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Ah ben voilà, j'ai presque fini. Moi, j'ai même fini. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être.
Je voudrais savoir, par exemple, de l'entreprise comme Apple ou ces entreprises-là, ceux qui gagnent dans les autres pays, est-ce que là-dessus aussi, ils paient des impôts aux États-Unis ou pas?
Alors là, attendez. Colin au carré. Il y a un Colin qui a un L et un autre qui a deux L. C'est très amusant. Et le rapporteur de la proposition de loi sur la fiscalité numérique du sénateur Marini, qui vise à taxer Google, est aussi Colin. Voilà, donc c'est l'année des Colins, en quelque sorte. Bon, il n'y a personne qui s'appelle Colin ici. Bon. Vous me demandiez s'ils payent des impôts.
Sur le chiffre d'affaires qu'ils font hors...
Alors, leur système, ils sont situés... Alors, il y a deux choses différentes. Pour le moment, Apple, par exemple, sur iTunes, ils tournent sur la TVA. Ils sont basés au Luxembourg. Et le Luxembourg, normalement, les taux de TVA sont harmonisés au sein de l'Union européenne. Bon. Or, les Luxembourgeois ont inventé un système en mettant un taux de TVA normal sur la partie technologique, technique du téléchargement, et en mettant le taux réduit sur la partie œuvre. Ce qui fait que là où en France, vous allez payer la TVA à 19,6, l'année prochaine à 20, sur un téléchargement fait à partir d'une plateforme française, au Luxembourg, on estime que la TVA doit être de l'ordre de 5 à 6%. Mais on ne sait pas vraiment le taux. Tout ça est très mystérieux. Et il y a eu en réalité une magouille, parce que les règles fiscales de l'Union européenne, si vous voulez changer un taux de TVA, il faut l'unanimité. La fiscalité au sein de l'Union se décide à l'unanimité. Et donc, pour obtenir l'accord du luxembourgeois, il a dû fallu en passer par un compromis bidon, mal connu, et c'est aussi pour ça que s'est reportée l'application des mesures à 2017-2019 pour l'application de la TVA sur le pays de destination. Donc sur la TVA, ils trichent déjà. Parce que ça n'est pas harmonisé. Donc ils bénéficient d'un avantage de TVA qui est considérable. Parce qu'entre 7 et 20, sur le prix des produits, ça joue ferme. Et sur la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, il y a deux pays qui sont spécialisés au sein de l'Union européenne pour être connus pour des sortes de paradis fiscaux déguisés, parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher comme paradis fiscaux, c'est le Luxembourg et l'Irlande. Et donc, l'argent qu'ils gagnent, ils le retournent non pas vers les États-Unis, ils le redirigent vers les Bermudes, les îles Vierges et tout ça, qui sont des vrais paradis fiscaux. Une autre manière de détourner, pour ne pas payer d'impôts dans un pays, c'est ce que fait un peu Euro Disney. C'est que vous imposez des redevances de licence très élevées sur les biens. C'est-à-dire que vous dites, chaque fois qu'il y a un téléchargement, je génère une charge au bénéfice de la maison mère, au titre du fait que ça va s'appeler la marque aux fruits, ou je ne sais pas, vous inventez un truc. Et ça, c'est aussi un système par les licences et les brevets pour minimiser vos recettes fiscales dans le pays que va vous imposer. Et donc, l'argent Apple, il part pas vers les États-Unis en grande partie, il part vers Bermude et Vierge. Simplement, quand vous accumulez des excédents, Apple, on parle de réserve trésorerie de 140 milliards de dollars. 140 milliards de dollars. Une fois que vous êtes aux îles Vierges, Caïmans, machin et tout, c'est pas là que vous allez placer. Donc leur objectif, après, c'est il faut qu'ils remettent leur argent, à un moment donné, dans le circuit économique, pour faire des investissements. Donc, ils sont obligés de retourner vers les États-Unis. Et c'est là qu'ils négocient avec le gouvernement américain. Et récemment, c'est un indice, hein, j'en ai pas la preuve, mais récemment, on a appris qu'Apple allait créer des emplois aux États-Unis. Pour moi, c'est le signe qu'ils ont fini une partie de leur négo avec le gouvernement américain. Ils ont payé une taxe, certainement, une taxe de rapatriement, beaucoup moins élevée que celle qu'ils auraient payée s'ils avaient généré leurs revenus aux États-Unis. Et en échange, ils se sont engagés aussi à créer des emplois. Mais le non-rapatriement avec du troc, c'est courant. Par exemple, je crois que le film Titanic de James Cameron a été tourné au Mexique. Avec de l'argent d'autres entreprises, d'autres secteurs qui étaient au Mexique et qui ne pouvaient pas être rapatriés. Parce qu'une des manières d'utiliser de l'argent que vous ne pouvez pas sortir du pays ou que vous ne pouvez pas rapatrier, c'est justement de faire des tournages et vous transformer l'argent en film. Il y a un moment donné, le cinéma russe a été florissant. Après l'ex-URSS, après Gorbatchev, d'un seul coup, il y a eu des investissements considérables dans le cinéma russe. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était tout l'argent des mafias russes qui se recyclait, qui se blanchissait par des films. Alors à un moment, ils ont arrêté parce que si vous blanchissez par un film et que le film ne fait pas un copec ou pas un rouble, évidemment, vous ne faites pas une bonne affaire parce que ce n'est pas parce que vous avez un film que vous avez un négatif de grande valeur. Bon. Mais il y a eu une période, c'était après, juste après la libéralisation, une sorte de flambée du cinéma russe incroyable qui étaient liés à des réinvestissements mafieux. Donc, tout ce système est parfaitement décrit dans ce rapport Collin et Collin, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est un vrai sujet, parce que c'est le sujet de la concurrence déloyale et du fait que si ces entreprises-là ne paient pas les impôts qu'elles devraient normalement payer sur le territoire où elles exercent leurs activités, qui c'est qui va payer à leur place ? Ben, tous ceux qui sont là, vous, moi. Voilà. D'où, alors c'est pas pour ça qu'il y a les 75% de Hollande, parce que ça c'est le pire, ça c'est la mauvaise politique. Les riches, il faut les faire venir, il ne faut pas les faire fuir. Et donc, vous allez voir dans les mois qui viennent, Google a fait l'objet d'un contrôle fiscal en France, assez sévère. Vous allez voir que le sujet, comment faire contribuer au budget de l'État toutes ces grandes entreprises, est un sujet qui ne va pas arrêter de monter en puissance. Il y a d'ailleurs une sorte de coopération européenne en train de se mettre en œuvre entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, puisque tous les grands pays sont en quelque sorte arnaqués par ces systèmes. Voilà. Oui ? Ben, c'est-à-dire que, sur le plan européen, la France peut trouver des alliés, parce que, sur le plan de la fiscalité, tous les autres grands pays européens sont dans la même situation que la France. Bon. Vous avez vu que sur la question de la presse, la question de la rémunération de la presse par Google n'est pas partie de France, c'est partie de l'Allemagne. C'est en Allemagne qu'il y a eu des volontés de créer une loi pour que la presse bénéficie d'une partie des publicités liées aux liens sur Google Actualité qui utilisent les articles de journaux. Donc, sur ce sujet-là, David Cameron, récemment, s'est plaint qu'il n'y avait pas de contribution au budget britannique. Il y a eu une audition d'une entreprise qui n'est pas de l'Internet, mais de Starbucks, qui avait aussi des systèmes d'évasion fiscale devant la Chambre des communes britannique, qui a été extrêmement dure et extrêmement violente. Donc le sujet émerge. Donc, l'Europe vient d'adopter une recommandation, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'agir, parce que c'est la règle de l'unanimité, sur la question. Donc c'est un sujet qui est enclenché. Mais comme toujours sur les sujets européens, entre le moment où on s'aperçoit qu'il y a un problème et le moment où il se règle, c'est 5 ans minimum. Quoi, voilà. Donc vous avez le temps de... C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là ne fraudent pas. Attention. Ils ont des armées d'avocats qui utilisent les faiblesses du dispositif européen, l'absence d'harmonisation fiscale et le fait que par Internet, on peut sauter les frontières. Voilà. Mais la fraude, on verra. Alors le gouvernement français a lancé un contrôle fiscal sur Google. Si naturellement, il trouve des factures Google France et pas Google Irlande, là, ils vont dire, ah, désolé, vous aviez un établissement stable en France, vous devez payer vos impôts en France. Mais c'est parce que les autres auront fait une erreur technique.
Je voudrais dire, si tout le monde, demain, utilise la plateforme Google ou Apple pour regarder la télévision ou les films, qu'est-ce qui reste pour les chaînes nationaux pour,
je sais pas, entre le moment où une technologie arrive... C'est-à-dire, vous pouvez recevoir. C'est pas parce que Google va lancer des chaînes que, dans un premier temps, ces chaînes vont pouvoir être reçues par tout le monde, parce qu'il faut déjà avoir une télévision connectée. Il faut que votre télévision connectée soit réellement connectée. Bon. Entre le moment où il y a la possibilité technique, technologique, de recevoir un certain nombre de programmes, et le moment où ces programmes sont massivement diffusés et plaisent au public, il se produit un certain temps. L'arrivée de ces technologies va être puissante, à mon avis, sur les services qui vont être concurrents de la vidéo physique, sur les services de vidéo à la demande. Parce que là, il y a possibilité, c'est la possibilité de vendre électronique en ligne. Sur la télévision, c'est plus complexe parce qu'il y a un immobilisme des droits. Ce n'est pas demain que Google va récupérer la Ligue de football, enfin des choses comme ça. Vous voyez, il y a tout, va être capable de mettre en place des émissions de télévision qui vont plaire aux Français. Il y a d'ailleurs un exemple inverse, c'est Disney. Il y a Disney Channel dans toute l'Europe. Et quand Disney Channel s'est installé en France, ils ont été obligés de respecter les quotas d'œuvres françaises, 40% et tout le temps. Et ils ont été obligés, de par ce fait, de franciser Disney. Et c'est Disney Channel France qui a eu la percée la plus importante sur le territoire national. Parce que ce n'était plus un Disney importé, mais c'était un Disney qui avait des programmes, qui avait des caractéristiques nationales. Le problème que vont rencontrer ces entreprises en Europe, c'est que si vous ne nationalisez pas les programmes, vous n'arriverez pas à percer. Sauf les programmes de... Si vous vendez un film, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites un programme de le programme de télévision français de TF1, vous le balancez sur l'Italie, ça ne marche pas. Bon. Si vous faites un Google TV à la sauce américaine, ketchup et tout, pour l'ensemble de l'Europe, ça ne va pas marcher. Donc, non, ça ne marchera pas. Enfin, actuellement. Par contre, si vous avez un service de vente en ligne de livres, de vente en ligne de vidéos par abonnement de films ou de séries, là, ça peut marcher, parce que vous êtes sur des programmes ciblés. Par contre, pour une télévision plus généraliste, pour le moment, il ne s'est pas créé, depuis que l'Europe existe, et c'est possible par le câble des satellites, il n'y a aucun TF1 européen qui est apparu sur le marché. Vous voyez, il n'y a aucune chaîne de télévision capable de capter la publicité sur l'ensemble d'Europe. En plus, il y a un problème, c'est que vous ne vendez pas les produits de la même manière à un Français qu'à un Italien ou qu'à un Allemand. Donc, la publicité doit être ciblée. Si vous regardez les publicités pour des grandes marques, vous verrez qu'on les relocalise, on les renationalise parce que les réactions des consommateurs des différents pays ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est naturellement un frein sur les systèmes de télévision, je dirais pan-européens. D'autres questions ? Allez-y.
Donc, ils vont faire un Google France. Donc, c'est toujours Google qui va faire...
Oui, mais s'ils font un Google France, là, on peut plus facilement les attraper. Si vous faites un Google, si vous faites un Google.fr ciblé sur la France, c'est là qu'il va y avoir la réflexion fiscale et commencer de créer ce qu'on appelle un établissement virtuel stable. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... Vous devez déclarer un établissement dans lequel vous allez localiser votre chiffre d'affaires du .fr. Moi, par exemple, pour la Société des auteurs, j'ai un accord avec YouTube.fr. Ils me payent un pourcentage des recettes d'exploitation de YouTube.fr au titre de la diffusion des œuvres du répertoire de la SACD sur YouTube. Et le gars avec qui j'ai négocié l'accord, qui était à l'époque le numéro 2 de YouTube, je suis très fier d'avoir dîné avec lui, parce que c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'Internet. 38 millions de dollars. C'est un dénommé Enrique qui est maintenant le numéro 2 de Yahoo. Bon. Et donc, on a un accord avec YouTube.fr. Donc, s'il faut un Google, ils seront obligés de faire un Google.fr parce qu'ils ne vendront pas. Ils ne peuvent pas vendre une chaîne unique aux Anglais, qu'aux Français. Même les habitudes des heures d'écoute, en fait, c'est différent. Bon. Et donc, s'ils font un YouTube ou un Google.fr, ce sera plutôt YouTube d'abord, parce que s'ils déclinent de la télévision, ils vont plutôt le décliner, à mon avis, par l'intermédiaire de YouTube. Ils vont être obligés d'avoir un point d'accroche .fr, et c'est là que le fisc va commencer à leur tomber dessus. Bon, ça me paraît assez clair. Tout simplement parce que pour le moment, mais ça peut changer, personne n'a réussi à créer une marque de télévision généraliste attrapant la publicité à l'échelle européenne. Voilà. Ça n'existe pas. Parce que, pour une raison simple, c'est que, prenons un sport, le football. Vous allez vous intéresser à Pise-Venise? Vous allez avoir beaucoup de spectateurs français pour voir le match? Bon, alors vous aurez le grand match pour les fous de football de l'Inter contre la Juve, là peut-être. Bon. Mais il y a des tas de matchs locaux qui ne vont pas vous intéresser. Par contre, le foot français, vous connaissez les joueurs, bon, voilà. C'est tout. Il y a toute une partie des programmes qui sont par définition nationaux. Oui, mais alors là, attention, la force de ces entreprises, et c'est pour ça que le rapport Colin est intéressant, et c'est là où ils peuvent gagner par rapport aux télévisions classiques, c'est que comme ils passent par Internet et qu'ils collectent vos données personnelles, c'est-à-dire quand vous allez chercher un programme, à la différence, quand vous regardez TF1, c'est combien de personnes ont regardé, mais ce n'est pas que c'est vous qui avez regardé TF1 et combien de temps vous avez regardé. Quand vous êtes sur ces télévisions, tous ces systèmes qui passent Internet, je suis désolé, mais vous êtes fliqué. Vous êtes profilé. Je sais tout de vous. Je sais ce que vous allez regarder par Google. Je sais à peu près tout ce que vous allez faire. Vous ne m'échapperez pas beaucoup. Bon. Et donc, après, je peux vous suggérer, vous envoyer des publicités qui vont correspondre à vos goûts, c'est-à-dire je vais pouvoir vendre, c'est la force de ces entreprises, c'est qu'elles vendent aux publicitaires, aux annonceurs, votre profil. Et Patrick Lelay, quand il avait dit, vous savez, la télévision, je vends du temps de cerveau humain à Coca-Cola, ben, par rapport à Google et à toutes ces bornes-là, c'est un amateur, c'est un gars de 5e division, hein. Eux, ils savent tout ce que vous allez faire. Moi, je vais vous donner l'exemple. Ma femme utilise Gmail. Et à un moment, je préparais en même temps, elle préparait un voyage que je devais aller faire en Roumanie, et j'étais en train d'acheter une maison en Bretagne. J'ouvre sa messagerie Gmail. Moi, je n'utilise pas Gmail parce que je n'ai pas envie d'être espionné. J'ouvre sa messagerie Gmail, qu'est-ce que je vois sur la droite? Acheter une maison en Roumanie. C'est tout simplement que vous êtes profilé. Voilà, c'est tout. Et vous êtes profilé à l'intérieur de vos mails. Ils savent tout de vous. C'est pour ça que se battre, une des manières de les coincer, et ça, tout ça ne sera pas filmé, tout ça restera secret entre nous. Une des manières de les coincer, c'est la bataille et la protection des données personnelles. Et de considérer que les données personnelles des Européens sont ou des Français sont un bien commun de la France. Et que leur utilisation doit éventuellement être taxée. Voilà. Ah ben bien sûr, il y a des astuces, mais je vais vous dire, toute personne douée, geek, formidable, qui sait tout du sujet Internet, a toujours le logiciel pour se protéger contre plein de trucs. Mais le grand public, hein, la mamie qui vit en Bretagne ou ailleurs et tout, et qui aura sa télévision connectée, elle sera profilée. Mais ce n'est pas en soi forcément mauvais. Quand vous allez sur Amazon, ils vous font des suggestions de livres qui vont correspondre à vos goûts. Mais je trouve que c'est moins intéressant que quand vous allez voir votre libraire et que vous discutez avec lui, c'est tout. Et le drame de ça, c'est que les commerçants qui font vivre à la fois les villes, les quartiers, enfin bon, et qui ont l'amour des biens culturels, ceux-là sont extrêmement menacés à cause de ces systèmes électroniques. Voilà. Et donc, si on n'est que dans un monde où il n'y a plus la relation physique avec les gens, c'est quand même relativement triste. Donc, espérons qu'on arrivera à maintenir les librairies. Et sur ce, bonne soirée.